Le temps de la Passion continue à se dérouler, toujours dans l'Évangile selon Marc, un Évangile qui a deux finales. Et ce sont donc les deux finales qui seront les sujets de nos prédications. Je commence par la finale courte et Marc s'intéressera à la finale longue, ou à la seconde finale. Nous en sommes au chapitre 16 de l'Évangile selon Marc. Je vous lis les 8 premiers versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voici la manière dont cesse l'Évangile selon Marc, selon de nombreux manuscrits. Je vous propose d'ouvrir votre psautier à la fin dans le livret des chorales. Et nous allons chanter le choral 24, un choral de Pâques. Et levons-nous pour chanter avec vigueur le Christ ressuscité. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Chers frères et sœurs, elle avait pourtant bien commencé cette petite entreprise de Jésus. Après l'inscription sur le registre au bord du Jourdain par Jean le Baptiste, une activité de publicité tous azimuts, des œuvres de bienfaisance, du mécénat, c'était la croissance. Une croissance que rien ne semblait pouvoir arrêter. Son activité croissait de façon miraculeuse et nombre de clients se multipliaient. En chef d'entreprise prévoyant, il avait diversifié l'activité, il n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. Aussi bien le médical que la politique, la philosophie, la justice, l'alimentaire, l'agroalimentaire, le bâtiment. La concurrence avait fort à faire avec lui, car il ne laissait rien passer, pas même un iota. Les trois ou quatre autres sociétés présentes sur le marché commençaient à s'inquiéter. Le Jésus en question leur prenait des parts de marché. Depuis que ses parents l'avaient présenté à la bourse de Sion, sa valeur n'avait cessé de progresser dans le tout Israël. Oui, cette start-up commençait à faire de l'ombre. Cela ne pouvait plus durer. Une OPA non amicale devait être lancée. Elle aurait lieu un vendredi, juste avant la fermeture du marché. Et cela allait conduire à un vendredi noir, à un véritable crash. Les actionnaires allaient lâcher l'affaire. Judas, tout d'abord, qui allait vendre ses actions pour une somme modique. Et puis Pierre, l'héritier, qui allait se récuser par trois fois. Et cette opération allait conduire inexorablement au dépôt de bilan. Dépôt qui allait se faire dans une roche creusée, clos par une pierre. Ainsi donc, les tenants de la vieille économie du salut avaient réussi leur coup. Le temple des Sadducéens était sauf. La loi des pharisiens était sauve. l'un des zélotes, Barabbas, était sauf. La pureté des Esséniens était sauve. La paix des Romains était sauve. La nouvelle économie du salut est morte. Vive l'ancienne, commençait-il à crier. C'est dans ce contexte que des femmes prennent, peut-être, la rue du mur du temple, la célèbre Wall Street, et se rendent à la sépulture toute fraîche. La suite, vous la connaissez, nous venons de la relire dans l'Évangile selon Marc. Elles rencontrent un consultant qui leur dit « Mais Jésus de Nazareth vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Ainsi donc, ne soyez pas épouvantés, ne soyez ni déçus, ni désespérés. Rendez-vous en Galilée, là où Jésus a accompli l'essentiel de son activité. Agissez comme il le faisait, et vous le verrez, dans le moindre de vos gestes, dans la moindre action que vous ferez en faveur de vos frères et de vos sœurs. Car la nouvelle économie du salut n'est pas morte en vérité, elle est redressée. À chaque fois que nous empruntons le chemin qui nous mène vers la Galilée, à chaque fois que nous nous dirigeons symboliquement vers ce lieu où Jésus a exercé le principal de son entreprise, en incarnant nous aussi l'Évangile, nous pouvons voir qu'il est encore possible d'entreprendre selon cette économie-là. Oui, Pâques, c'est un appel qui nous est lancé à sortir de ces tombes, de tous ces comportements mortels et mortifères qui consistent à reproduire ce qu'il y a de plus ignoble chez les autres, ou encore qui consistent à reporter sur les autres la cause de notre malheur. Ce que les femmes entendent dans ce tombeau, c'est qu'il s'agit de sortir de cette attitude qui consiste à entretenir le malheur, à entretenir la mort, à embaumer la mort. C'est un appel à sortir des comportements mimétiques, des cercles vicieux de la violence collective qui a rythmé la passion et qui, de nos jours encore, ne manque pas d'allure. Des comportements de violence collective qui répondent de nos jours encore à des mots plus conceptuels, anglicisés pour les rendre peut-être plus comestibles, comme le bashing, l'art de la flagellation. L'appel qui est lancé aux femmes, c'est un appel à la responsabilité, à se rendre soi-même en Galilée. Ces femmes sont désormais aux avant-postes. Nous sommes aux avant-postes. Nous ne pouvons plus nous reposer tranquillement sur le maître parfait qui agirait à notre place. C'est un appel à prendre nos responsabilités et à nous rendre nous-mêmes en Galilée, c'est-à-dire là où on prêche l'Évangile, là où l'on guérit, là où l'on manifeste l'amour de Dieu par des signes tangibles. Là où la vie prend des tonalités de béatitude. Car la nouvelle économie du salut est sortie des limbes, elle est bel et bien ressuscitée. Le temple des Sadducéens a fait son temps. La loi des pharisiens a fait son temps. La révolte des Zélotes a fait son temps. La pureté des Esséniens a fait son temps. La paix romaine a fait son temps, et toutes ces composantes de la vieille économie, marquées par le cynisme de ceux qui opèrent par petits arrangements entre frères ennemis sur le dos de l'innocent, eh bien toutes ces composantes sont en fait les véritables victimes de la croix. La croix qui révèle que tous ces agissements sont incapables. Incapables d'empêcher la violence, incapable de produire des œuvres de justice, incapable d'inscrire le bien dans la durée. Et le temps s'ouvre comme ce tombeau. Le temps s'ouvre pour cette nouvelle économie qui pose que ce qui est capital, c'est cette possibilité qu'il y ait des interactions charitables entre les êtres humains. Oui, il est encore possible d'aimer et d'être aimé. Il est encore possible que les sociétaires du monde où nous vivons interagissent de manière positive entre eux. C'est une économie qui nous rappelle que ce qui importe, ce n'est pas d'entretenir le temple des Sadducéens, ce n'est pas de respecter la loi des pharisiens, ce n'est pas de se maintenir en état de pureté rituelle comme les Esséniens, autant d'attitudes qui en fait ankylosent la vie, voire qui la crucifient. Ce qu'il convient de faire, c'est d'adhérer à ce qui donne de l'entrain dans la vie. Peut-être cela a de quoi nous laisser sans voix, comme ces femmes au tombeau. Mais cela tombe bien, car ce n'est plus le temps des belles paroles, c'est le temps des actes. C'est le temps d'agir, c'est le temps d'entreprendre. Oui, c'est une économie qui valorise l'investissement dans l'humain et qui libère les initiatives individuelles, celles qui encouragent l'épanouissement de nos frères et de nos sœurs en humanité. Là où la vieille économie cherchait à conserver les choses en l'état, la nouvelle économie, suscitée par Jésus, nous invite à développer tout ce qui concourt à l'éclosion des talents personnels. Oui, nous sommes au premier rang. Oui, nous sommes au front. Et cet évangile dit que nous sommes capables. La nouvelle économie, suscitée par Jésus, nous invite à agir, nous invite à répondre présent aux défis que la vie nous lance. Et cet évangile ajoute que nous sommes capables d'assumer ces responsabilités. Certes, une telle responsabilité a de quoi faire peur à l'image de ces femmes, épouvantées, car l'expérience de la liberté est terrifiante, car elle désigne un monde nouveau. Un chemin par lequel nul n'est encore jamais passé. L'expérience de liberté est effectivement terrifiante, mais en même temps fascinante. Quelle belle perspective qu'un monde où il est possible de rendre la vie vivable. Quelle belle perspective que ce monde où il est possible d'être l'artisan du bonheur de son prochain. Amen.
Donc les meilleurs manuscrits de la Bible, les plus anciens, se terminent comme ça, sur ces trois points de suspension. Et des commentateurs du milieu du IIe siècle connaissent l'Évangile ainsi, je veux dire, non achevé. Alors ça peut poser question, peut-être c'est pour que nous écrivions la suite avec notre propre existence. En tout cas, certains ont écrit une suite finalement, puisque nous connaissons aussi d'excellents manuscrits qui ont la finale que je vais vous lire. Donc c'est les versets 9 à 20 qui sont dans notre évangile selon Marc. Jésus ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et qui se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas eu confiance dans ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura foi et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas foi sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront eu la foi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors Jésus reproche à ses disciples de ne pas avoir cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Mais à vrai dire, quelle était la crédibilité de ces témoignages de personnes qui avaient vu Jésus leur apparaître ? S'il n'est pas bon d'être incrédule et de passer ainsi à côté de quelque chose de très important, d'essentiel, il n'est pas bon non plus d'être crédule et de se laisser embarquer par n'importe quel illuminé, ou pire, par n'importe quel manipulateur, déguisant son entreprise en une église vivante et sympa. Alors, est-ce qu'il y avait de bonnes raisons de croire ou de ne pas croire ces prétendus témoins du Christ ressuscité ? Alors, c'est vrai que leur témoignage pourrait être comparable à quelqu'un, à ceux, voilà, des personnes qui ont des hallucinations. Mais si c'était le cas, si c'était une hallucination, cela ne produirait, je pense, que peu de résultats positifs dans leur existence. Elle serait source de souffrance dans leur vie et il serait source de souffrance, peut-être, pour leur entourage. Au contraire, on voit que ces témoins du Christ ressuscité, après un moment de stupeur, ce qui leur est arrivé les mobilise, les rend plus vivants et les fait s'intéresser aux autres, aller vers eux, partager voilà, quelque chose de leur expérience. Et donc ce qui leur est arrivé, que l'on ne sait pas, les a en quelque sorte ressuscités eux-mêmes. Et ils ne se scandalisent pas de voir que les autres ne les croient pas, non. Ils ont une sorte de douceur dans leur attitude et en même temps ils ont cet enthousiasme de vivre et une certaine force pour avancer. Alors peut-être ont-ils rêvé en pensant voir Jésus vivant ? Peut-être ont-ils présenté d'une curieuse façon ce qu'ils ont vécu spirituellement ? Ce qui est certain, c'est que ça a été pour eux ressuscitant. Alors le deuxième indice positif pour la crédibilité de ces témoignages est bien relevé dans les textes. Il nous est dit que Jésus apparaît sous des formes différentes. et non pas toujours de la même façon. Et cette diversité assumée dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, me semble intéressante. Entre les récits où Jésus apparaît sous forme d'un corps de chair et qu'il mange même des poissons, les récits où il a la forme d'un jeune homme blanc, habillé de blanc et lumineux, ce qui n'a donc rien à voir avec l'existence physique de Jésus avant, entre Paul qui exprime ce Christ ressuscité comme une lumière et comme une voix, et Pierre qui dit que Christ est mort selon la chair, mais rendu vivant selon l'esprit. Cette diversité nous autorise, je pense, à avoir notre propre opinion sur le mode de résurrection du Christ et à accepter que d'autres aient d'autres façons de le concevoir. Cette diversité me semble être un signe positif quant à la sincérité de ces témoignages. Ceux qui ont eu une certaine expérience ne se sont pas sentis obligés de dire comme les autres. Et effectivement, quand on a vraiment le sentiment d'avoir vu quelque chose vraiment, on n'a pas peur de la diversité des témoignages. On dit simplement, ben moi j'ai vu ça comme ça. Si d'autres l'ont vu autrement, ben ils ont vu autrement, il n'y a pas de problème. Le troisième indice positif me semble être le mobile possible de ces témoignages. Les personnes qui disent avoir vécu cette expérience en témoignent, mais ne cherchent à en retirer aucun pouvoir. Elles ne fondent pas une nouvelle secte pour autant. Ils témoignent et quand ils ne sont pas crus, bah tant pis, ils continuent leur petit chemin. Cette idée de résurrection ne vient pas non plus d'un groupe qui imaginerait cette mise en scène après la mort de leur leader ou bien qui chercherait à expliquer la surprise qu'ils ont eue en trouvant un tombeau vide. Non. Au contraire, le groupe, on le voit, le groupe des disciples s'oppose à cette idée de résurrection. Et effectivement, elle est plutôt contre-productive. Ces récits de résurrection, on le voit dans les évangiles et puis dans les actes des apôtres, ne semblent convertir personne, bien au contraire, et aujourd'hui non plus, à mon avis. Par exemple, l'apôtre Paul, ce ne sont absolument pas ces témoignages de personnes qui auraient vu Jésus ressuscité qui vont le convaincre qu'il y a vraiment la vie en Christ. Au contraire, cela ne fait que l'énerver encore un peu plus contre les tenants de cette secte. Ce n'est que quand lui-même fait personnellement cette expérience qu'il va changer. Et donc ces paroles de rencontre avec le Christ vivant partent d'expériences d'individus indépendants et qui en témoignent sous différentes formes. Car finalement c'est cela qui semble se passer. La résurrection n'est pas présentée comme quelque chose qui arrive au Christ, qui devient puissant et dont la voix va résonner partout à travers le monde. Mais l'événement de Pâques, ce n'est pas quelque chose qui arrive au Christ, c'est quelque chose qui arrive à des personnes qui cherchaient quelque chose, mais qui ne cherchaient vraiment pas ça, de voir le Christ vivant alors qu'il est mort sur la croix. Alors qu'est-ce qui empêche les apôtres de croire ces personnes disant que Jésus leur était apparu? Eh bien, d'après ce que leur dit Jésus, d'après ce texte, ce sont deux choses, c'est leur manque de foi et la dureté de leur cœur, leur manque de souplesse, finalement. A priori, ils ne leur auraient pas reproché de ne pas avoir senti la présence du Christ vivant eux-mêmes, parce que beaucoup ne l'ont pas senti, ni avant, ni même après. Ce n'est pas du tout obligatoire non plus maintenant de ressentir le Christ vivant dans son existence, même si l'Évangile nous dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, personne n'est obligé de le ressentir. D'ailleurs, Marc, qui écrit cet Évangile, Luc, qui écrit un autre Évangile, qui écrit les Actes des Apôtres, ne disent avoir ressenti quoi que ce soit du Christ qui serait vivant auprès d'eux, ni dans leur petit cœur. Alors que d'autres, oui, témoignent d'avoir eu une expérience, une rencontre, plus ou moins physique, plus ou moins spirituelle avec lui. C'est donc pas grave si on n'expérimente pas ce genre de choses soi-même. Mais Jésus nous dit que si on a un peu de foi, un peu de confiance dans les autres, un peu de souplesse d'esprit aussi, on devrait pouvoir croire celui qui en témoigne, de façon crédible, pas forcément n'importe quel illuminé qui passe. et bénéficier, je crois, de cette connaissance qu'il existe d'autres dimensions, finalement, que celles qui nous sont familières. Et voir les effets positifs sur cette personne qui en témoigne sans en être jaloux pour autant, chacun son cheminement. Comme un aveugle peut faire confiance, un aveugle de naissance peut faire confiance aux personnes qui lui disent qu'il y a quelque chose à voir et qui peut se réjouir de toute façon que d'autres personnes voient, lui-même vivant à sa façon. Mais effectivement, cela demande de la foi, je crois, celle que Dieu est plus grand que ce que moi seul peux en saisir, et par mon intelligence, et par mon expérience, et que c'est par bien des dimensions qu'il s'adresse à l'humain. Et cela demande de la souplesse d'esprit, pour accepter d'évoluer peut-être, accepter la diversité des modes de relation au Christ, de relation à Dieu et de relation au monde. Et ça aussi, je crois, que c'est une question de foi, en réalité, de confiance en Dieu. Et cela rend service à la foi chrétienne, car cette diversité même de façon d'être en relation avec le Christ, cette diversité même rend bien compte, je crois, d'une vérité qui dépasse l'existence, qui dépasse ce qu'on peut en dire. Et c'est un vrai signe d'une vérité plus grande que simplement nos témoignages, une vérité qui l'anime, l'Église chrétienne au sens large. Et cela renforce sa crédibilité, alors qu'un seul unique témoignage l'affaiblirait au contraire. La tunique du Christ, comme on dit, n'est pas déchirée finalement par cette diversité. Au contraire, un tissu, il tire sa solidité même, son existence même, de fils qui vont dans des directions complètement différentes et qui s'entrecroisent. Tous, chacun, nous avons des expériences de foi. Peut-être nous l'exprimons pas ainsi, finalement. Et quelle que soit la forme que peuvent prendre nos contacts avec la source ultime de la vie, comme ces femmes, nous pouvons avoir peur de ces ouvertures sur quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que nous ne connaissions pas. Car effectivement, dans une expérience nouvelle, non ordinaire, nous pouvons ressentir comme un vertige face à l'inconnu, peut-être une peur de perdre le contrôle sur notre propre existence, comme si nous devenions fous. Mais non, l'expérience mystique, comme l'intuition philosophique peut l'être aussi, c'est quelque chose de fugace, finalement. Cela passe comme le Christ ressuscité qui apparaît et puis qui, après un geste, après trois mots, disparaît, nous laissant avec une expérience dont nous avons la mémoire et puis souvent quelque chose de nouveau dans nos facultés, une faculté nouvelle. Quelque chose aussi qui nous donne envie de vivre et d'en témoigner, car toute belle chose vécue donne envie, est encore plus belle quand on la partage avec ceux qu'on aime. Mais alors comment dire notre témoignage dans ce domaine, puisque justement c'est quelque chose qui est très personnel? Comment être crédible dans ce domaine? Eh bien, peu importe, nous dit le témoignage de cette page de l'Évangile, il suffit d'être simplement soi-même, sincère et doux. L'essentiel est que cela sorte, que cela s'exprime dans un mouvement vers les autres, dans une parole, qu'on aille dans le monde, finalement. Il ne s'agit donc pas de jouer un rôle mettant en scène joie et vie, pour répondre peut-être à cette critique de Nietzsche, par exemple, qui nous disant que nous n'avions pas des têtes de ressuscité. Nous n'avons pas à avoir des têtes de ressuscité en faisant semblant de sourire, en prenant la Sainte Cène ou en écoutant le culte. On peut très bien avoir la tête que l'on veut avoir, et quand on est concentré, on n'a pas forcément un grand sourire benêt sur le visage. Il ne s'agit donc pas de jouer un rôle, il ne s'agit pas non plus de prétendre avoir tout d'un coup une puissance surnaturelle, comme celles qui sont exprimées ici, de chasser des démons, ou bien de guérir par simple geste de bénédiction les personnes qui sont malades, Ou alors s'il fallait prendre ce passage à la lettre de ceux qui ont la foi, il faudrait être capable d'assimiler la morsure de 12 serpents à sonnette et d'avoir bu un litre de cigu sans aucune peine. Et pourtant, oui, quand on nous dit que ces signes sont là quand on témoigne de sa foi, c'est vrai. Nous avons effectivement le courage de vivre notre foi, d'en témoigner simplement comme nous l'avons vécu. Nous pouvons alors aller dans le monde, nous frotter à lui, même au mal qui existe dans le monde. Nos paroles, selon ses promesses, seront accompagnées de cette puissance de résurrection qu'est Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons, cette puissance, elle nous accompagne. Oui, Dieu sera vraiment présent avec nous et il sera laissé libre d'agir par notre sincérité et par notre simplicité. Et alors, les démons de la folie, le poison de l'indifférence, alors les serpents de la tentation, la maladie qu'est le péché tremble, bien des morts se relèvent alors et la langue de l'amour et du cœur, de la foi, résonne. Amen. Ahem.